refait une petite pause musicale et on va plonger non pas dans l'histoire, mais à la fois dans l'histoire et dans l'actualité. Ça va commencer par l'histoire. On va plonger dans l'histoire et dans l'actualité. Mediapart a présenté quelques pages de Victor Hugo assorties à l'événement auquel vous pensez. Hommage de Victor Hugo à Notre-Dame de Paris. Alors, n'ayez pas peur, je ne vous entraînerai jamais dans aucune église. Mais c'est pas défendu de les regarder. Lundi 15 avril 2019, le feu s'est rapidement propagé à la toiture et à la flèche qui s'est effondrée. Pour saluer ce monument emblématique de la capitale, de l'histoire de France et de l'architecture gothique, Mediapart publie l'hommage que lui rendait Victor Hugo en 1831 dans le livre 3 de son roman du même nom. Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais si belle qu'elle soit, conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner. Devant les dégradations, les mutilations sans nombre, que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument. Sans respect pour Charlemagne, qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste, qui en avait posé la dernière. Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. Tempus edax, homo edatior. Ce que je traduirais volontiers ainsi. Le temps est aveugle, l'homme est stupide. Si nous avions le loisir d'examiner une à une, avec le lecteur, les diverses traces de destruction imprimées à l'antique Église, la part du temps serait la moindre, la pire, celle des hommes, surtout des hommes de l'art. Il faut bien que je dise des hommes de l'art, puisqu'il y a eu des individus qui ont pris la qualité d'architecte dans les deux siècles derniers. Et d'abord, pour ne citer que quelques exemples capitaux, il est à coup sûr peu de plus belles pages architecturales que cette façade, où successivement et à la fois les trois portails creusés en ogive, le cordon brodé et dentelé des 28 niches royales, l'immense rosace centrale flanquée de ses deux fenêtres latérales, comme le prêtre du diacre et du sous-diacre, la haute et frêle galerie d'arcade à trèfle qui porte une lourde plateforme sur ses fines colonnettes, enfin les deux noires et massives tours avec leurs auvents d'ardoise, parties harmonieuses d'un tout magnifique, superposées en cinq étages gigantesques, se développent à l'œil, en foule et sans trouble, avec leurs innombrables détails de statuaires, de sculptures et de ciselures, ralliés puissamment à la tranquille grandeur de l'ensemble. Vaste symphonie en pierre, pour ainsi dire, œuvre colossale d'un homme et d'un peuple, tout ensemble une et complexe, comme les Iliades et les Romanceros, dont elle est sœur. Produit prodigieux, de la cotisation de toutes les forces d'une époque, où, sur chaque pierre, on voit saillir en cent façons la fantaisie de l'ouvrier, disciplinée par le génie de l'artiste. Sorte de création humaine en un mot, puissante et féconde comme la création divine dont elle semble avoir dérobé le double caractère, variété, éternité. Et ce que nous disons ici de la façade, il faut le dire de l'Église entière. Et ce que nous disons de l'Église cathédrale de Paris, il faut le dire de toutes les églises de la chrétienté au Moyen-Âge. Tout se tient dans cet art venu de lui-même, logique et bien proportionné. Mesurer l'orteil du pied, c'est mesurer le géant. Revenons à la façade de Notre-Dame telle qu'elle nous apparaît encore à présent quand nous allons pieusement admirer la grave et puissante cathédrale qui terrifie, au dire de ses chroniqueurs, quae mole sua terrorem incutit spectantibus, dont la masse suscite la terreur de ceux qui la regardent. Trois choses importantes manquent aujourd'hui à cette façade. D'abord, le degré de 11 marches qui l'exhaussait jadis au-dessus du sol. Ensuite, la série inférieure de statues qui occupaient les niches des trois portails. Et la série supérieure des 28 plus anciens rois de France qui garnissaient la galerie du premier étage, à partir de Childebert jusqu'à Philippe Auguste, tenant en main la pomme impériale. Le degré, c'est le temps qui l'a fait disparaître, en élevant d'un progrès irrésistible et lent le niveau du sol de la cité. Mais tout en faisant dévorer une à une par cette mare montante du pavé de Paris, les 11 marches qui ajoutaient à la hauteur majestueuse de l'édifice, le temps a rendu à l'Église peut-être plus qu'il ne lui a ôté. Car c'est le temps qui a répandu sur la façade cette sombre couleur des siècles qui fait de la vieillesse des monuments l'âge de leur beauté. Mais qui a jeté bas les deux rangs de statues? Qui a laissé les niches vides? Qui a taillé, au beau milieu du portail central, cette ogive neuve et bâtarde? qui a osé y encadrer cette fade et lourde porte de bois, sculptée à la Louis XV, à côté des arabesques de Biscornette? Les hommes, les architectes, les artistes de nos jours. Et si nous entrons dans l'intérieur de l'édifice qui a renversé ce colosse de Saint-Christophe, proverbial parmi les statues, au même titre que la grande salle du palais parmi les halles, que la flèche de Strasbourg parmi les clochers? Et ces myriades de statues qui peuplaient tous les entrecolonnements de la nef et du chœur, à genoux, en pied, équestres, hommes, femmes, enfants, rois, évêques, gendarmes, en pierre, en marbre, en or, en argent, en cuivre, en cire même, qui les a brutalement balayés? Ce n'est pas le temps. Et qui a substitué au vieil hôtel gothique, splendidement encombré de châsses et de reliquaires, ce lourd sarcophage de marbre à tête d'ange et à nuages, lequel semble un échantillon dépareillé du Val-de-Grâce ou des Invalides? Qui a bêtement scellé ce lourd anachronisme de pierre dans le palais carlovingien de Hercandus? N'est-ce pas Louis XIV, accomplissant le vœu de Louis XIII? Et qui a mis de froides vitres blanches à la place de ces vitraux hauts en couleur, qui faisaient hésiter l'œil émerveillé de nos pères entre la rose du grand portail et les ogives de l'abside? Et que dirait un sous-chantre du XVIe siècle en voyant le beau badigeonnage jaune dont nos vandales archevêques ont barbouillé leur cathédrale? Il se souviendrait que c'était la couleur dont le bourreau brossait les édifices scélérés, comme scélérats. Il se rappellerait l'autel du petit Bourbon, tout englué de jaune aussi, pour la trahison du connétable. Jaune, après tout, de si bonne trempe, dit Sauval, et si bien recommandé que plus d'un siècle n'a pas encore pu lui faire perdre sa couleur. Il croirait que le lieu saint est devenu infâme et s'enfuirait. La greffe de l'ogive sur le plein cintre. Et si nous montons sur la cathédrale, sans nous arrêter à mille barbaries de tout genre, qu'a-t-on fait de ce charmant petit clocher qui s'appuyait sur le point d'intersection de la croisée et qui, non moins frêle et non moins hardi que sa voisine la flèche, détruite aussi de la Sainte-Chapelle, s'enfonçait dans le ciel, plus avant que les tours, élancées, aiguës, sonores, découpées à jour. Un architecte de bon goût, en 1787, l'a amputée, et a cru qu'il suffisait de masquer la plaie avec ce large emplâtre de plomb qui ressemble au couvercle d'une marmite. C'est ainsi que l'art merveilleux du Moyen-Âge a été traité presque en tout pays, surtout en France. On peut distinguer sur sa ruine trois sortes de lésions qui toutes trois l'entament à différentes profondeurs. Le temps d'abord, qui a insensiblement ébréché ça et là et rouillé partout sa surface. Ensuite, les révolutions politiques et religieuses, lesquelles, aveugles et colères de leur nature, se sont ruées en tumulte sur lui, ont déchiré son riche habillement de sculpture et de ciselure, crevé ses rosaces, brisé ses colliers d'arabesques et de figurines, arraché ses statues, tantôt pour leur mitre, tantôt pour leur couronne. Enfin, les modes, de plus en plus grotesques et sottes, qui depuis les anarchiques et splendides déviations de la Renaissance se sont succédés dans la décadence nécessaire de l'architecture. Les modes. Elles ont fait plus de mal que les révolutions. Elles ont tranché dans le vif. Elles ont attaqué la charpente osseuse de l'art. Elles ont coupé, taillé, désorganisé, tué l'édifice, dans la forme comme dans le symbole, dans sa logique comme dans sa beauté. Et puis, elles ont refait. Prétention que n'avaient eu, du moins, ni le temps, ni les révolutions. Elles ont effrontément ajusté, de par le bon goût, sur les blessures de l'architecture gothique, leur misérable colifichet d'un jour, leur ruban de marbre, leur pompon de métal, véritable lèpre, d'ove, de volute, d'entournement, de draperie, de guirlandes, de franges, de flammes de pierre, de nuages de bronze, d'amour replet, de chérubins bouffis, qui commencent à dévorer la face de l'art dans l'oratoire de Catherine de Médicis et le fait expirer 2 siècles après, tourmenté et grimaçant dans le boudoir de la Dubarry. Ainsi, pour résumer les points que nous venons d'indiquer, 3 sortes de ravages défigurent aujourd'hui l'architecture gothique. Rides et verrues à l'épiderme, c'est l'œuvre du temps. Voies de fait, brutalité, contusion, fracture, c'est l'œuvre des révolutions, depuis Luther jusqu'à Mirabeau. Mutilation, amputation, dislocation de la membrure, restauration, c'est le travail grec, romain et barbare des professeurs selon Vitruve et Vignole. Cet art magnifique que les Vandales avaient produit, les académies l'ont tué.
Thank you.
Aux siècles, aux révolutions qui dévastent, du moins avec impartialité et grandeur, est venue s'adjoindre la nuée des architectes d'école, patentés, jurés et assermentés, dégradant avec le discernement et le choix du mauvais goût, substituant les chicorées de Louis XV aux dentelles gothiques, pour la plus grande gloire du Parthénon. C'est le coup de pied de l'âne au lion mourant. C'est le vieux chêne qui se couronne et qui, pour comble, est piqué, mordu, déchiqueté par les chenilles. Qu'il y a loin de là, à l'époque où Robert Sénalis, comparant Notre-Dame de Paris à ce fameux temple de Diane à Éphèse, tant réclamé par les anciens païens, qui a immortalisé Hérostrate, trouvait la cathédrale gauloise plus excellente en longueur, largeur, hauteur et structure. Notre-Dame de Paris n'est point du reste ce qu'on peut appeler un monument complet, défini, classé. Ce n'est plus une église romane, ce n'est pas encore une église gothique. Cet édifice n'est pas un type. Notre-Dame de Paris n'a point, comme l'abbaye de Tournus, la grave et massive carrure, la ronde et large voûte, la nudité glaciale, la majestueuse simplicité des édifices qui ont le plein cintre pour générateur. Elle n'est pas, comme la cathédrale de Bourges, le produit magnifique, léger, multiforme, touffu, hérissé, efflorescent de l'ogive. Impossible de la ranger dans cette antique famille d'églises sombres, mystérieuses, basses, et comme écrasée par le plein cintre, presque égyptienne au plafond près. Toute hiéroglyphique, toute sacerdotale, toute symbolique, plus chargée dans leurs ornements de losanges et de zigzags que de fleurs que d'animaux, d'animaux que d'hommes. Œuvre de l'architecte moins que de l'évêque. Première transformation de l'art, toute empreinte de discipline théocratique et militaire, qui prend racine dans le bas empire et s'arrête à Guillaume le Conquérant. Impossible de placer notre cathédrale dans cette autre famille d'églises, haute, aérienne, riche de vitraux et de sculptures, aiguë de forme, hardie d'attitude. Communale et bourgeoise, comme symbole politique libre, capricieuse, effrénée comme œuvre d'art. Seconde transformation de l'architecture, non plus hiéroglyphique, immuable et sacerdotale, mais artiste, progressive et populaire, qui commence au retour des croisades et finit à Louis XI. Notre-Dame de Paris n'est pas de pure race romaine comme les premières, ni de pure race arabe comme les secondes. C'est un édifice de la transition. L'architecte saxon achevait de dresser les premiers piliers de la nef lorsque l'ogive, qui arrivait de la croisade, est venue se poser en conquérante sur ses larges chapiteaux romans, qui ne devait porter que des pleins cintres. L'ogive, maîtresse dès lors, a construit le reste de l'église. Cependant, inexpérimentée et timide à son début, elle s'évase, elle s'élargit, se contient, et n'ose s'élancer encore, en flèche et en lancette, comme elle l'a fait plus tard, dans tant de merveilleuses cathédrales. On dirait qu'elle se ressent du voisinage des lourds piliers romans. D'ailleurs, ces édifices de la transition du roman au gothique ne sont pas moins précieux à étudier que les types purs. Ils expriment une nuance de l'art qui serait perdue sans eux. C'est la greffe de l'ogive sur le plein cintre. Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon. Notre-Dame de Paris est en particulier un curieux échantillon de cette variété. Chaque face, chaque pierre du vénérable monument est une page, non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. Ainsi, pour n'indiquer ici que les détails principaux, tandis que la petite porte rouge, atteint presque aux limites des délicatesses gothiques du XVe siècle, les piliers de la nef, par leur volume et leur gravité, recule jusqu'à l'abbaye carlovingienne de Saint-Germain-des-Prés. On croirait qu'il y a 6 siècles entre cette porte et ses piliers. Il n'est pas, jusqu'aux hermétiques qui ne trouvent dans les symboles du grand portail un abrégé satisfaisant de leur science, dont l'église de Saint-Jacques de la Boucherie était un hiéroglyphe si complet. Ainsi, l'abbaye romane, l'église philosophale, l'art gothique, l'art saxon, le lourd pilier rond qui rappelle Grégoire VII, le symbolisme hermétique par lequel Nicolas Flamel préludait à Luther, l'unité papale, le schisme, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques de la Boucherie, tout est fondu, combiné, amalgamé dans Notre-Dame. Cette église, centrale et génératrice, est parmi les vieilles églises de Paris une sorte de chimère. Elle a la tête de l'une, les membres de celle-là, la croupe de l'autre, quelque chose de toute. Nous le répétons, ces constructions hybrides ne sont pas les moins intéressantes pour l'artiste, pour l'antiquaire, pour l'historien. Elles font sentir à quel point l'architecture est chose primitive, en ce qu'elle démontre ce que démontrent aussi les vestiges cyclopéens, les pyramides d'Égypte, les gigantesques pagodes hindoues, que les plus grands produits de l'architecture sont moins des œuvres individuelles que des œuvres sociales. Plutôt l'enfantement des peuples en travail que le jet des hommes de génie. Le dépôt que laisse une nation. Les entassements que font les siècles. Le résidu des évaporations successives de la société humaine. En un mot, des espèces de formation. Chaque flot du temps superpose son alluvion. Chaque race dépose sa couche sur le monument. Chaque individu apporte sa pierre. Ainsi font les castors, ainsi font les abeilles, ainsi font les hommes. Le grand symbole de l'architecture, Babel, est une ruche. Les grands édifices, comme les grandes montagnes, sont l'ouvrage des siècles. Souvent, l'art se transforme, qu'il pende encore. « Pendent opera interrupta », disait Virgile. L'œuvre interrompue est en suspens. Il se continue, paisiblement, selon l'art transformé. L'art nouveau prend le monument où il le trouve, s'y incruste, se l'assimile, le développe à sa fantaisie et l'achève, s'il peut. La chose s'accomplit sans trouble, sans effort, sans réaction, suivant une loi naturelle et tranquille. C'est une greffe qui survient, une sève qui circule, une végétation qui reprend. Certes, il y a matière à bien gros livres, et souvent, histoire universelle de l'humanité, dans ses soudures successives de plusieurs arts, à plusieurs hauteurs sur le même monument. l'homme, l'artiste, l'individu, s'efface sur ces grandes masses sans nom d'auteur. L'intelligence humaine s'y résume et s'y totalise. Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon. À n'envisager ici que l'architecture européenne chrétienne, cette sœur puis née des grandes maçonneries de l'Orient, elle apparaît aux yeux comme une immense formation, divisée en trois zones bien tranchées qui se superposent. La zone romane, la zone gothique, la zone de la Renaissance, que nous appellerions volontiers gréco-romaine. La couche romane, qui est la plus ancienne et la plus profonde, est occupée par le plein cintre, qui reparaît, porté par la colonne grecque, dans la couche moderne et supérieure de la Renaissance. L'ogive est entre deux. Les édifices qui appartiennent exclusivement à l'une de ces trois couches sont parfaitement distincts. Un est complet. C'est l'abbaye de Jumièges, c'est la cathédrale de Reims, c'est Sainte-Croix d'Orléans. Mais les trois zones se mêlent et s'amalgament par les bords, comme les couleurs dans le spectre solaire. De là les monuments complexes, les édifices de nuances et de transitions. L'un est roman par les pieds, gothique au milieu, gréco-romain par la tête. C'est qu'on a mis 600 ans à le bâtir. Cette variété est rare. Le donjon d'Étampes en est un échantillon. Mais les monuments de deux formations sont plus fréquents. C'est Notre-Dame de Paris, édifice ogival qui s'enfonce par ses premiers piliers dans cette zone romane où sont plongés le portail de Saint-Denis et la nef de Saint-Germain-des-Prés. C'est la charmante salle capitulaire demi-gothique de Bocherville, à laquelle la couche romane vient jusqu'à mi-corps. C'est la cathédrale de Rouen, qui serait entièrement gothique si elle ne baignait pas l'extrémité de sa flèche centrale dans la zone de la Renaissance. Du reste, toutes ces nuances, toutes ces différences n'affectent que la surface des édifices. C'est l'art qui a changé de peau. La constitution même de l'Église chrétienne n'en est pas attaquée. C'est toujours la même charpente intérieure, la même disposition logique des parties. Quelle que soit l'enveloppe sculptée et brodée d'une cathédrale, on retrouve toujours, dessous, au moins à l'état de germe et de rudiment, la basilique romaine. Elle se développe éternellement sur le sol, selon la même loi. Ce sont, imperturbablement, deux nefs qui s'entrecoupent en croix et dont l'extrémité supérieure arrondie en abside forme le cœur. Ce sont toujours des bas-côtés pour les processions intérieures, pour les chapelles, sortes de promenoirs latéraux où la nef principale se dégorge par des entrecolonnements. Cela posé, le nombre des chapelles, des portails, des clochers, des aiguilles se modifie à l'infini suivant la fantaisie du siècle, du peuple, de l'art. Le service du culte, une fois pourvu et assuré, l'architecture fait ce que bon lui semble. Statues, vitraux, rosaces, arabesques, dentelures, chapiteaux, bas-reliefs. Elle combine toutes ses imaginations selon le logarithme qui lui convient. De là, la prodigieuse variété extérieure de ces édifices, au fond desquels réside tant d'ordre et d'unité. Le tronc de l'arbre est immuable. La végétation est capricieuse. Et voici un communiqué de presse toulousain du collectif Autonomie. À l'occasion des 3 ans d'un squat d'enfants, Autonomie fait le point sur la situation du bâtiment. On va pas vous mentir, il y a le feu. Au sens propre, 75 rue de la Glacière, 31200 Toulouse. Vous vous souvenez? La Dépêche y avait consacré un article en 2017. Là, pourrissent depuis 1 an et demi les enfants de la France-Afrique, abandonnés par l'État et par le département de la Haute-Garonne. Depuis la réquisition de cet hôtel abandonné par 35 jeunes mineurs isolés étrangers en octobre 2017, des centaines d'autres jeunes sont passés par le squat. Squat foyer, squat école, squat refuge, squat permanence juridique, squat musique, squat drame, squat sourire, squat rencontre. Entre ces murs, ils ont trouvé une maison. Le squat, pour eux, c'est malheureusement un passage obligé. Au jeu, pas du tout marrant, de la protection de l'enfance, après la case DDA et OMI, dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés, il y a trop souvent la case trottoir. Le problème, c'est que les jeunes ne savent pas que les dés sont pipés d'avance par le département arbitre. Ces gamins sont trop matures, trop réfléchis, trop bons en maths, pas assez tristes. Ils passent trop bien l'éponge sur la table après avoir mangé, ils ont trop de plis sur leur visage. Pas assez d'acné, des fringues trop propres. Les os trop épais, trop de poils. Et surtout, surtout, ils ont la peau un tout petit peu trop foncé. Tous les arguments pourris sont bons pour le département et pour l'État. Ça fera un jeune à s'occuper en moins. Ça coûte de l'argent, un jeune. Ça crie, ça pense. Ça doit construire un avenir. Trop cher, alors. Avant de passer par la case future, merci de bien vouloir passer votre tour dans la rue, le caniveau, en guise d'oreiller. Au jeu pas très drôle de la protection de l'enfance, la case d'arrivée, c'est le foyer. Et le gros lot de l'espoir qui va avec. Mais avant, les tout petits pions, insignifiants, que sont les mineurs isolés étrangers, errent en cherchant la sortie du labyrinthe. Ils ne connaissent pas les règles du jeu. Les éducateurs flics du DAE OMI se gardent bien de les leur expliquer. Les jeunes ne savent pas qu'ils ont des droits. Et sur la case autonomie, cette petite case de pirates, on se bat et on fait valoir leur faculté à exister. 75 rue de la Glacière. Un hôtel, un réseau d'hébergeants, d'hébergeantes, des avocats et avocates, des militants et militantes investis au maximum. Plus d'une centaine de jeunes ont trouvé refuge là-bas. Des jeunes, foutus à la rue par la DDA et OMI, sont si nombreux que certains d'entre eux ont installé leur matelas en bas au rez-de-chaussée, là où se trouvaient auparavant les frigos à viande. Imaginez, 75 jeunes qui vivent en permanence dans ce bâtiment. Et 27 autres, scolarisés la semaine, qui reviennent le temps du week-end. Il y a un peu plus d'une 20aine de chambres. On n'aime pas les calculs, surtout que les types dans les bureaux les considèrent déjà assez comme des têtes de pipe à expulser. Alors on vous laisse compter. De toute façon, le bâtiment est plein à craquer. Oui, on disait déjà ça, il y a 6 mois. Il y a 1 an. Jusqu'ici, la boîte à outils de la solidarité suffisait à boucher les trous et à tenir. Maintenant, fini de jouer. Depuis quelques semaines, plusieurs départs de feu ont eu lieu à l'hôtel. Le chauffage central ni l'eau chaude ne fonctionnent plus depuis longtemps. Il n'y a pas de cuisine viable. Trop de plaques électriques et de chauffage d'appoint sont branchés et rebranchés sur les prises. Les plombs ont craqué plusieurs fois. Au-dessus de la tête des jeunes, dans chaque chambre, les mouches bourdonnent, les blattes creusent les matelas et les champignons croissent dans l'humidité ambiante. Des fuites d'eau partout. Le bâtiment, c'est du gruyère. Les siphons des salles de bain du 2e étage, complètement bouchés, débordent et laissent fuir des litres d'eau qui gouttent entre les cloisons, du 1er étage jusqu'à la grande salle de cours tout en bas. Les profs bénévoles donnent leurs leçons sur le trottoir de la rue de la Glacière. Les jeunes étaient déjà passés par cette case-là et voilà qu'ils y retournent, leur cahier sous le bras. Après l'exil forcé, le désert, la Libye et ses horreurs. Après les pirogues sur l'eau, comme ils disent. Après l'Italie ou l'Espagne, après les voyages, l'estomac troué par la peur. Après les questions policières des éduques policiers. Après la porte du DEAOMI qui claque. Après le bon au champ à 10 balles. Et les larmes au goût amer. Les cours de français sur le macadam. On va pas vous mentir. On a peur. Pour de vrai. Le squat est devenu dangereux pour les jeunes. À tout moment, un incendie risque de se déclarer. Qu'est-ce qui se passera si des flammes naissent et grandissent la nuit quand tout le monde dort? Qui, militants, militantes ou pas, pourrait les laisser là-dedans, dans ce squat qui menace de devenir un véritable enfer? On passe notre vie à se battre pour la valeur de leur vie, des vies qui, dans les lois et dans les pratiques des autorités, valent déjà bien moins que des vies d'enfants blancs. Qui laisserait des enfants blancs crever dans les flammes? Mais surtout, qui laisserait crever des enfants blancs dehors, dans le caniveau, dans le désert de bitume gris? Quelle ville rose! La situation est tellement grave qu'on a alerté la mairie, gestionnaire du bâtiment depuis le dernier procès contre Toulouse Métropole. Prenant la mesure du danger, elle a lancé des expertises et des travaux sont à l'étude pour éteindre le feu imminent. Des réflexions sont également en cours quant à une possible réhabilitation du bâtiment qui serait plus que bienvenue. Mais en attendant, le bâtiment surpeuplé s'use de plus en plus vite. La mairie peut changer les câbles et des boîtiers avec la meilleure des volontés, boucher les trous pour retarder le naufrage. Mais pour combien de temps? Il ne faut pas non plus perdre de vue que cette situation satisfait grandement le conseil départemental, qui devrait en toute logique assurer la prise en charge des jeunes, y compris pendant le temps des recours. Mais s'en lave les mains en déchargeant sa responsabilité sur d'autres. Les jeunes le disent eux-mêmes, ce n'est pas l'eau chaude et le chauffage dont ils ont besoin, mais être placés au foyer et aller à l'école. Et surtout, ils ne sont pas venus en France pour mourir dans l'indifférence. Alors, ce qu'on veut faire, on a besoin de vous pour y arriver, on veut hacker le jeu, siffler fin de partie pour de bon. Des victoires, il y en a déjà eu. Le son du tam-tam a déjà résonné pendant des journées entières dans les oreilles de la police et des juges. Il faut sortir les jeunes de là. Qui serait responsable en cas d'incendie dans le bâtiment? Qui serait responsable si des jeunes devaient perdre la vie, asphyxiés dans les vapeurs noires, plus noires que l'encre qui écrit les arrêtés ministériels racistes et les évaluations bidons de minorités, plus noires encore que la peau d'adolescents africains? À qui la faute? Aux militants et militantes qui les aident? Aux voisins qui les laissent vivre dans l'hôtel abandonné? À personne, puisque de toute façon, ils ne sont les enfants de personne. On va être clair, très clair. C'est le département et l'État qui seraient responsables d'un tel drame. C'est à eux qu'il revient de prendre en charge ces enfants plus que jamais en danger. 9 jeunes sur 10 gagnent leur recours contre la DDAEMOMI auprès des juges des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement mineurs. Pendant le temps de la procédure judiciaire, ils pourrissent au squat, perdant des heures, des mois, des années, pendant lesquelles ils auraient pu aller au lycée et faire tant d'autres choses encore. Vivre, quoi. Mais non. Les départements de France, pays des droits de l'homme blanc, laissent quelques enragés faire le boulot à leur place. Ils tolèrent l'éventualité de laisser cramer un bâtiment avec plus d'une centaine de jeunes dedans. Nous refusons de subir cela. Nos nuits sont déjà assez courtes. Il n'est pas question que ce soit aussi facile pour l'administration départementale. C'est sa faute, c'est sa honte. Il n'y a qu'une voie possible. Que le département fasse son taf, pour une fois. Qu'il prenne en charge ces mineurs isolés. Qu'il fasse ce pour quoi on paye des impôts. Qu'il respecte la Charte internationale des droits de l'enfant signée par l'État français. 75 rue de la Glacière, 31 200, Toulouse. Tout le monde connaît l'adresse maintenant. Des lettres et des chiffres synonymes d'espoir, des murs bien solides pour abriter leur nuit. De quoi seront faits leurs lendemains? Il reste une bataille à mener. Faisons perdre l'équipe de tricheurs qui se tient en face. En vrai, on préfère les flammes de la révolte. Contre histoire est terminée. Je vous remercie de votre écoute. Vous retrouverez autant de textes que je pourrais loger sur la page du podcast. Pas ce soir sans doute, mais demain. Merci à vous, prenez soin de vous. À bientôt. À samedi, je pense.